Radio Synergie URPCI.
Radio Synergie URPCI.
Table ronde. Ce programme vous est proposé par Radio Synergie URPCI, une plateforme d'échange de programmes.
Une initiative de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire au profit de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire.
Appui financier, l'ambassade des États-Unis
et le Fonds de soutien et de développement de la presse.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet intégré de suivi des droits de l'enfant, de prévention et de réponse aux mutilations génitales féminines, mariage précoce forcé et punition physique et humiliante dans la région du Gantougo et du Bokani, l'ONG Notre Grenier mène des actions de mobilisation, de sensibilisation, de renforcement des capacités et de plaidoyer visant à prévenir les violations faites aux enfants. C'est dans cette optique de sensibilisation que nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette émission qui s'articulera autour de la consommation de la drogue, facteur de risque de développer le phénomène d'enfants en rupture sociale ou associé aux gangs armés. Pour en parler, je suis avec des invités qui vont tout de suite et maintenant se présenter. Bonjour monsieur.
Bonjour, je me nomme Nguessan Sako Hugues Hervé. Je suis du service de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, sise au tribunal de Bondoukou.
Merci bien monsieur d'être venu. Également un autre invité qui va se présenter. Bonjour monsieur.
Bonjour, moi c'est Bamba Abdourahmane, comité protection enfant, CPE, quartier Zanzan.
Ah oui, nous avons un troisième intervenant, un enfant qui va intervenir dans l'anonymat, qui va nous faire un témoignage au cours de cette émission. Présentation, Sidiki Ouattara. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-moi, monsieur Nguessan, parlez-nous du service de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Dites-moi, c'est quoi ce service?
Le service de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse a été installé en mai 2018 au tribunal de Bondoukou. Et il y a eu, en mai passé, un an après, mai 2019, la cérémonie d'installation des locaux offerte par UNICEF Côte d'Ivoire à notre direction, qui est la direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse.
Bah oui, dites-moi, quelles sont les missions de ce service-là?
Ce service a plusieurs missions que je vais donner pêle-mêle. Il y a la mission de resocialisation des mineurs en rupture de ban avec la société, la mission de protection des mineurs en danger et des mineurs victimes d'abus de toutes sortes et préparer la réinsertion sociale des mineurs infracteurs.
Depuis la création de ces services ici à Bondoukou, est-ce que vous avez pu gérer des cas afférents à votre service?
Nous avons eu de nombreux cas. Malheureusement, nous ne sommes pas venus avec les statistiques ici, mais cela n'est que partie remise lors d'une autre mission. Nous serons amenés à communiquer sur les statistiques du SPGH de Bondoukou.
Dites-moi alors, est-ce que la jeunesse ou les enfants de Bondoukou sont-ils bien partis ou mal partis?
Je dirais comme à l'instar de toutes les autres villes de la Côte d'Ivoire, que Bondoukou ne se situe pas en marge. Dans toutes les sociétés, il y a une marge de population déviante et nous sommes là pour aider à canaliser et à réduire ces différentes déviances-là.
Merci bien. Également, nous allons nous tourner vers M. Bamba Abdourahmane, l'autre invité de la protection des enfants. Dites-moi, parlez-moi de votre le CPE.
Au fait, le CPE une création du ministère de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant. Ça a été créé par arrêté ministériel. Alors, nous sommes au sein des communautés pour relayer certaines déviances dont vient de parler monsieur le SPGS. Voilà, monsieur Nguessan. Voilà, c'est-à-dire les structures étatiques n'étant pas tout le temps dans la communauté, il faut des gens qui puissent essayer de relayer certaines informations et au-delà de ça, faire des sensibilisations parce que quand tu es avec la communauté, vous comprenez mieux, vous connaissez assez et vous avez les arguments ou bien les rudiments idoines pour essayer de lancer certaines informations ou bien certaines sensibilisations. Donc, notre rôle, c'est de sensibiliser, essayer d'être le relais de l'État sur cet état de fait-là, sur les violations des droits des enfants auprès des communautés.
Et comment ça se passe sur le terrain?
Bon, ça se passe tant bien que mal. De toute façon, ce n'est pas toujours évident parce que essayer de relayer ou bien de faire des signalements auprès des structures appropriées n'est pas toujours chose aisée. Mmh. Mais au-delà de ça, les sensibilisations, ça va. Mais vous savez, ça c'est monnaie courante. Aujourd'hui, on sait que tous ceux qui militent sur les droits des enfants sont stigmatisés. On nous reproche le plus souvent que nous sommes à la base des biens des enfants parce qu'ils savent qu'ils ont des droits. Alors, ils se comportent d'une manière, je dirais pas autoritaire, parce qu'ils savent qu'ils sont protégés par la loi. Ce qui n'est pas toujours vrai parce qu'ils ont aussi des devoirs qu'on essaie de leur faire savoir.
Donc, et comment vous réagissiez après, quand on vous interpelle de la sorte, comment est-ce que vous réagissiez?
Bon, vous savez, tout début est difficile. Et la pédagogie, sinon je dirais l'andragogie, mm-hmm. est plus difficile même que la pédagogie, mm-hmm. puisque le doyen, les grandes personnes, se disant des gens, des sachants, c'est pas toujours évident de l'essayer de les recadrer. Mm-hmm. Mais je pense qu'avec les formations qu'on a reçues et les renforcements de capacités que les ONG, surtout notre grenier, nous a donné, et le centre social aussi, ça nous a donné vraiment des rudiments pour essayer de les faire comprendre que nous sommes sur la droite ligne et nous ne sommes pas contre qui que ce soit. Et ça commence à aller, les gens commencent à comprendre.
En tout cas, merci à tous d'être venus à cette émission. Je rappelle le sujet qui nous réunit ce soir, c'est la consommation de la drogue, facteur de risque de développer le phénomène d'enfants en rupture sociale ou associé aux gangs armés. Et moi, je vais demander à M. Nguesson, c'est qui un enfant à risque?
Je pourrais dire de manière entre griffes terre à terre qu'un enfant à risque, c'est un enfant qui est susceptible de tomber dans la délinquance ou qui est influençable au point de devenir une victime de certains abus. C'est cette catégorie de personnes que nous appelons enfants à risque.
Et donc, ils sont à risque, je vais encore essayer de mieux comprendre, par rapport à quoi? Ils sont exposés à quoi?
Ils sont exposés à plusieurs phénomènes sociaux, tels que, pour revenir au thème qui nous réunit aujourd'hui, subir l'influence ou la contagion des consommateurs de drogue, tomber sous le coup des entre griffes maniaques sexuelles, ils peuvent être sujets d'abus sexuels de par leur vulnérabilité, leur capacité à ne pas distinguer le bien du mal. Et nous pourrons mettre dans cette rubrique enfants à risque, les grossesses précoces, les mineurs qui faute de... Je peux aussi citer les mineurs qui faute d'encadrement familial et d'éducation et qui peuvent tomber dans les travers de la grossesse précoce. Voilà.
Dites-moi, monsieur Bamba, est-ce que ce n'est pas prématuré de parler d'enfants et de consommation de la drogue? Enfants et drogue, consommation de la drogue, est-ce que ça, c'est pas paradoxal?
On dit vaut mieux prévenir que guérir. Je pense que M. Nguesson l'a bien signifié dans ses propos préliminaires. Il a dit que Bonoku n'est pas en marge de cette gangrène nationale, je dirais mondiale. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un phénomène interplanétaire. On sait que ce n'est pas prématuré. Déjà même, celui même que tu t'es dit que c'est un enfant, si tu n'y prends garde, tu vas prendre vraiment, tu seras tardivement alerté que vraiment il n'a pas joué son rôle d'enfant. Il collabora avec les grandes personnes de manière négative, bien sûr. Donc je pense que ce n'est pas prématuré parce que aujourd'hui, en tout cas, la majorité même des enfants sont des gangrènes même pour la société. Donc il faut en parler. La drogue même, au-delà même de tout ce qu'on peut dire, la drogue est à la base de toutes les déviances de la société, surtout des enfants. Parce que quand ils prennent la drogue, ils sont exposés à toutes les vulnérabilités.
Et donc, si on a décidé de parler de la consommation de la drogue chez les enfants, M. Nguesson, on a fait un constat du fait que les enfants, ça donne à la consommation de la drogue. Dites-moi quel bilan ou quel pourcentage, comment est-ce qu'on peut, quantifier ce fait-là par rapport au taux d'enfants, au nombre d'enfants qui ça donne à la consommation de la drogue. Est-ce que c'est exagéré, c'est un début ou bien ils sont anciens là-dedans?
Bon, avant de répondre à votre question, j'ai jugé opportun de définir ce que c'est qu'un enfant. Selon l'article 1er de la loi numéro 2019-572 du 26 juin 2019, est mineur la personne qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans accompli, c'est-à-dire le jeune homme ou l'enfant qui a 18 ans moins un jour est considéré comme mineur. et c'est tant autant au plan civil qu'au plan pénal. Cette définition étant faite, je vous communiquais tout à l'heure que nous n'avons pas eu le temps de prendre les statistiques au niveau de Bondoukou. Et vraiment, nous souhaitons y revenir un autre jour. Mais à travers certains phénomènes, on pourrait désigner comme facteur d'influence la drogue. Par exemple, les élèves qui se mettent de nos jours eux-mêmes en congé avant les congés prévus dans le programme scolaire, le font-ils sans l'appui de certains stupéfiants? C'est, voilà des grandes interrogations que nous nous posons. Nous disons certainement non pour des élèves qui, dans certaines villes, pourchassent des professeurs pour les chasser des classes. Il faut être dans un état second pour pouvoir avoir ce genre de comportement.
Ah oui, pour dire qu'un enfant censé ne pourrait pas faire ça. Et donc, dites-moi, monsieur Bama, est-ce que vous avez, dans vos différentes sensibilisations, côtoyé des enfants qui ont consommé de la drogue?
Oui, mais certainement, de notre position en tant que communautaire, je pense que nous sommes mieux outillés, nous sommes mieux placés pour savoir que ce phénomène existe autour de nous. C'est vrai que, à longueur de journée, on ensemble, puisque nous sommes dans la communauté, malheureusement, c'est un constat amer. C'est réel, à Bondoukou, ça existe.
Monsieur Nguessan, comment est-ce qu'ils en arrivent à ce fait-là, la consommation de la drogue? Qu'est-ce qui cause, quel est le déclic, quelle est la clé d'ouverture pour entrer dans ce monde de consommation de la drogue? Parlons bien sûr des enfants.
Pour leur entrée dans le monde de la consommation de la drogue, nous n'allons pas accuser un seul facteur. Il y a certains faisceaux de facteurs qui poussent ces enfants-là à la drogue. Par exemple, nous pouvons citer comme exemple le manque d'encadrement familial. Je donne un exemple. Par exemple, le père est transporteur. Il est tout en partie, il est sur la route. La mère va au marché. Et lorsque le matin, tout le monde va à ses occupations, l'enfant est supposé aller à l'école. Et là-bas, il peut s'entourer de mauvaises compagnies, soit à l'école, soit en cours de route, qui pourraient influencer la prise de la drogue. Voilà.
Monsieur Bamba, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Comment ces enfants arrivent-ils à ce stade de consommation de la drogue là?
Bon, quand même, Monsieur Nguessan étant de manière de sa position bien outillé pour de manière scientifique et intellectuelle pour donner les réponses, mais je vais quand même y essayer. C'est vrai, les facteurs sont divers. Il y a aussi ce que moi je constate au niveau des enfants d'aujourd'hui, c'est le désir de s'affirmer, parce que quand tu es sous l'effet de la drogue, en tout cas tu peux te faire entendre, et ça nul ne peut le nier. On sait qu'aujourd'hui dans nos communautés, les enfants qui sont autoritaires, les enfants qui font parler d'eux, ils sont mieux vus et mieux au niveau même de leur
entourage,
au niveau même de leur il est facile pour eux d'aller draguer, et puis en tout cas ils se deviennent comme des stars. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché, et ils vivent comme des stars. Donc c'est le snobisme, tout le monde veut faire comme eux. Alors donc il y a ce facteur là aussi qui est très très important et qu'il ne faut pas négliger. Même si les enfants, il y a des enfants qui se droguent même sous l'étonnement même de leurs parents, malgré tout ce qu'ils peuvent apporter comme encadrement, comme suivi, mais ils se tournent souvent que les enfants ont dévié.
Si je vous suis bien, la consommation de la drogue chez les enfants se fait de façon volontaire.
C'est un des facteurs, oui, mais c'est pas...
Non, en fait, ce que je veux dire, c'est pas par obligation qu'ils le font, c'est de façon volontaire, ils aiment, ils veulent paraître, par exemple, c'est pas sous l'effet de la pression de quelqu'un qu'ils s'adonnent à la consommation.
Mais en ce qui me concerne, comme moi je suis à Bondoukou et je suis dans ma communauté, ce que je constate, ce que j'ai dit. Sinon, au-delà de ça, il y a des contraintes. Si tous les enfants, soldats, les trucs, là bon. Mais comme ce n'est pas dans notre zone, Dieu merci, on ne vit pas ces trucs. Je ne crois pas que chez nous ici, les enfants sont contraints.
Dites-moi, monsieur Nguessan, est-ce de façon volontaire ou par contrainte?
Nous pouvons considérer ces deux facteurs. C'est-à-dire de manière volontaire, par exemple pour les enfants qui subissent les pressions des classes d'examen dans lesquelles ils sont, ils nourrissent souvent les préjugés selon lesquels qu'il faut souvent prendre des comprimés dopants afin de rester éveillé jusqu'à tard dans la nuit pour étudier, pour parvenir à de meilleurs résultats scolaires. Souvent, ce n'est pas vérifié et que ces enfants-là peuvent piquer des crises de surmenage et autres. Ce sont en fait les conséquences. Maintenant, pour le choix volontaire, il y a des enfants gens qui décident d'adhérer à des gangs, des bandes de jeunes, où l'un des critères pour appartenir à ces gangs-là, c'est de consommer la drogue, de ne pas avoir froid aux yeux, et pour pouvoir satisfaire leurs camarades et appartenir à ce gang qui peut-être est craint dans le lycée ou bien dans le quartier. Et l'un des critères, c'est de consommer la drogue. Et eux-mêmes, ils vont vers ces groupes-là parce qu'ils les choisissent comme modèle. Il faut dire que la société de nos jours a perdu certaines de ses valeurs où certains modèles ne sont pas forcément les modèles qui étaient des exemples à l'époque. Par exemple, les jeunes s'identifient au stade du coupé-décalé. Voilà, du coup, des stades du coupé-décalé et ils pensent que en consommant la drogue, ça leur permet d'avoir le vent en poupe, de ne pas avoir froid aux yeux et de draguer. Par exemple, quand on parle de l'enfance, de la jeunesse, généralement, cette tranche d'âge, comme nous parlons aujourd'hui des mineurs qui sont en contact avec la drogue, la tranche d'âge part de l'adolescence jusqu'à l'âge de 17 ans, 18 ans. Donc chacun cherche à s'affirmer et ils n'ont pas de repères, je peux dire de repères valables pour pouvoir s'identifier. Il manque de modèles d'identification.
Et ils se perdent.
Et ils se perdent indubitablement.
Voilà. Et donc, vous avez parlé à l'instant de gang. Les gangs armés, c'est le deuxième élément que nous allons aborder. Mais avant d'y arriver, nous sommes avec un troisième invité à qui nous allons demander comment est-il arrivé à la consommation de la drogue. Bonjour, cher frère.
Bonsoir.
Comment êtes-vous arrivé à la consommation de la drogue?
Bon, c'était un jour, j'étais à la maison, en ce moment j'étais au lycée, il fréquentait au lycée, il faisait la cinquième. Donc je partais à l'école, mais dans l'école, au fait, il y avait une gang et ils étaient respectés dans le lycée. Donc ça m'a motivé, moi aussi je voulais essayer.
Excuse-moi, un gang c'est quoi? Il y avait un gang, vous parlez de gang, le gang c'est quoi?
Bon, c'était un groupe d'élèves, d'élèves, bon, qui faisaient presque tout ce qu'ils voulaient dans le lycée. Ils étaient bien à l'aise. Ils avaient tout le temps les nouveaux trucs que je voyais en eux. Donc moi, au fait, je me suis dit, et si je me rapprochais de ce gang? Donc c'est par ça, j'ai essayé de me rapprocher, j'ai fait la connaissance d'un ami. Lui, au moins, il causait avec ce gang. Donc c'est dans ça, lui m'a dit que si je veux appartenir à ce gang, il faudrait que je fume la drogue. Bon, mais en ce moment, bon, ça m'a... Comment dire ça même?
Tu n'étais pas trop inspiré?
Pas trop inspiré. Donc c'est dans ça, maintenant, il marchait avec l'ami. Je n'étais pas encore dans le gang. Il marchait beaucoup avec mon ami qui causait à eux. Donc lui, il fumait de la cigarette. Donc il fumait à lui. Il m'a appris à fumer, donc il a commencé à fumer. Donc c'était un jour de fête. C'était, bon, entre Ramadan, Tabaski. Donc c'était un jour de fête, il m'a envoyé
à quelque part
d'aller payer de la cigarette. Et il m'a montré où je vais venir le croiser. Donc c'est quand je suis parti acheter la cigarette et je suis venu le croiser, j'ai vu la nuvée. Bon, comment ça? Il a levé quelque chose dans un châssis avec un papier. Il a commencé à rouler. Il a demandé c'est quoi ça? Il dit non, que ça c'est grand frère de cigarette. Que non, comme il fume cigarette là, j'ai testé ça là aussi pour voir. Ça là, lui là, il est plus fort que la cigarette. Il dit ok. Donc il a roulé, il a fumé. Au fait, quand il a fumé, il y a eu vertige. Il ne pouvait même pas marcher même. Donc il m'a pris, on est parti chez lui. Bon, il peut dire dans une maison inachevée. On est parti, j'ai dormi, après je me suis levé. Donc, quand je me suis levé, il a roulé. Il dit non, il ne fume pas. Il dit non, c'est pas c'est la première fois que tu as fumé que non, ça t'a donné la vertige. Donc, il faut essayer de fumer. Donc, il a fumé. Bon, quand il a fumé, bon, je me sentais. Je n'avais pas vertige, mais au fait, il avait commencé à même. C'est vraiment, il était courageux. Il avait cœur. Dans tout ce qu'il voulait faire, donc, il a commencé à comprendre. Il fumait. Au fil de la nuit, il fumait. Donc, après, maintenant, lui m'a dit que non, je ne sais pas, chaque jour, lui va acheter. Il veut fumer. Il faut que moi aussi j'envoie l'argent un jour, on va en acheter. Enfin, moi, je ne savais pas où on vendait aussi. Donc, c'est dans ça maintenant. Quand, chaque fois que je m'en vais à l'école, maman peut me donner 200. Donc, quand elle me donnait 200, elle parlait de donner ça à mon ami. Il achète, on fume. Bon, non, c'est dans ça maintenant. Après, bon, j'ai voulu. Comment on dit ça?
Bon, jusqu'à présent, ça fait combien d'années que tu as commencé à fumer là?
3 ans.
Trois ans, depuis là, qu'est-ce qu'il y a? Quand tu fumais là, qu'est-ce qui a changé en toi?
Bon, ce qui a changé en moi, selon moi, j'ai eu le courage. Bon, après ça, j'ai commencé dans le quartier. Au fait, tout le monde avait peur de moi. Et pour ça, moi, c'est pas ça me plaisait. Mm-hmm. Bon, après aussi, j'ai commencé à effrayer les gens. Ou j'ai su que non, les gens avaient peur de moi. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, et si j'agressais? Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est par là aussi que j'ai rencontré. Après même, j'ai fait le gang qui m'a motivé à fumer de la drogue. Même, après moi, au fait, je ne les considérais plus. Quoi. Mm-hmm. Après, moi, je vois que non, c'est dans le lycée seulement. Ils ont,
ils intervenaient.
Voilà, ils intervenaient. Mm-hmm. Mais au dehors du lycée, ils ne faisaient rien. Mm-hmm. Voilà. Donc, j'ai décidé de suivre, bon, de suivre comment on dit ça, les gens qui agressaient en plein air dans la rue. Ok, c'est dans ça aussi que j'ai fait rencontre d'un autre groupe. Mm-hmm. Bon, avec eux, dans ça, ça c'est, là, c'est là-bas qu'il a appris, appris à prendre les comprimés. Mm-hmm. Voilà. Donc, au fait, ils m'ont demandé si j'ai fumé la drogue. J'ai dit oui, j'ai fumé la drogue. Mm-hmm. J'ai fumé la cigarette. Mm-hmm. Donc, c'est dans ça aussi on est parti acheter des comprimés. Mm-hmm. On est parti, on a acheté les comprimés. Bon, quand j'ai pris les comprimés, au fait, genre, c'était plus moi, quoi.
C'est plus toi.
Voilà. Bon, ce que j'ai commencé à faire, et puis après, la douceur du comprimé qui était sur moi, ils m'ont expliqué, je n'en croyais pas.
Pendant tout ce temps-là, tes parents, ils étaient au courant que tu consommais de la drogue?
Pendant tout ce temps, mes parents, ils n'étaient pas au courant. Mm-hmm. Mais où mes parents ont commencé à... Comment ça même?
À savoir que tu fumais?
À savoir que je fumais. Mm-hmm. Bon, par exemple, je vis avec maman et mon petit frère. Après, je rentrais tard à la maison. Mm-hmm. Et quand mon petit frère, aussi, genre un petit truc, il s'est énervé. Mm-hmm. Il s'est devenu agressif à la maison. Mm-hmm. Quand maman me parlait, je m'énervais vite. Donc c'est là ça, un jour, il s'est assis, maman m'a demandé que non, mais à quoi? Que non, est-ce que je ne deviens pas fou par hasard? Que non, on va aller à l'hôpital. Il dit non, elle n'a qu'à laisser ça. Bon, il s'est énervé, je suis sorti. Jusqu'à, je sais pas, au fait, je ne sais pas comment elle a fait pour apprendre que non, je fume de la drogue. Mm-hmm. Donc je suis venu à la maison, elle m'a demandé que non, est-ce que tu ne fumes pas de la drogue? Il dit non. Elle m'a demandé est-ce que tu ne fumes pas de la drogue? Il dit non. Elle m'a, tout le temps, elle me demande ça. Il dit non. Jusqu'à le jour, jusqu'à le jour où elle a fouillé dans mon sac et elle a vu la drogue. Donc c'est dans ça que je suis rentré. Elle m'a demandé de fumer la drogue. J'ai dit non, il a commencé à jurer que non, je fume.
Et quand elle a découvert là, quelle a été sa réaction?
Bon, quand je suis venu, elle m'a demandé. Moi, elle a dit non, je fume pas. Donc c'est dans ça qu'elle m'a montré. Elle était énervée. Bon, moi aussi, j'étais énervé. Parce qu'elle me criait, elle là, criait sur moi. Donc moi aussi, j'étais énervé. J'ai dit non, faut pas avoir crié sur moi. Et suis sorti. Donc c'est après ça maintenant, il y a fait près de 2 mois. Deux mois, il ne rentrait pas à la maison. Donc pendant tout ce temps, il me cherchait. Donc après, vous voyez, partout il passe, ceux que ses amis qu'il croisait, il pleure, il dit non, maman me cherche. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Donc c'est dans ça aussi. Un jour, il était assis dans un gars. Il s'est assis, il la voit, elle est venue vers moi. Elle a commencé à pleurer. Qu'ils ont dit rentrer à la maison, on va parler. Donc, je suis arrivé à la maison, on a parlé. Elle dit non, d'arrêter. Elle dit oui, ok, maman, il a arrêté.
Est-ce que tu as arrêté effectivement à ce jour où on parle?
À ce jour, il a arrêté. Mais après ça, après, il est parti à l'école. Donc, c'est quand il a repris le cours. C'était au cours des congés là, elle a pris. Elle a su que je fumais. Donc, pendant, d'ici que les congés là auront fini, j'étais à la maison. Donc, c'est quand on a repris le cours. J'ai connu, comment dire ça, quand il partait à l'école, sur la route de l'école, il croisait mes amis avec ceux qui marchaient. Donc, c'est comment, bon, allons fumer une fale, allons fumer, donc si ça m'a gamé. Donc, il a commencé encore, bon, il a laissé l'école. Il a commencé à fumer. Donc, on partait, on agressait dans le quartier, en fait.
Et tout ça après les conseils de la maman, hein?
Oui, après le conseil de la maman. Maintenant, un jour, elle m'a demandé que non, elle ne savait pas que non, il partait pas à l'école. Quand il sort, il y a mes habits dans mon sac. Quand j'arrive sur la route, il me change. Maintenant, il sait avec mes amis. Donc, c'est après ça, on a calculé des moyennes. Elle m'a demandé après mon... Chaque fois, elle me demande après mon bulletin. Moi, il dit non. Ils ne nous ont pas encore donné chaque fois. Donc, en ce moment, il y avait nos voisins. Moi, puis son enfant, on est dans la même classe. Il est venu... Il dit non, qu'on nous a donné nos bulletins. Donc c'est dans ça, un bon 16 heures. Il s'est quitté, je me suis habillé comme il s'est quitté à l'école, je suis venu. Dès qu'il s'est arrivé net, maman dit non, on va se retourner au lycée. Il dit non, c'est pas aller faire quoi, que non, on va aller prendre nos bulletins. Il dit non, moi il va pas là-bas, que moi je suis fatigué. Il dit bon, je suis fatigué de me reposer en lit. Bon, il s'est assis quand... Bon, moi je voulais que non, je voulais me cacher pour sortir, mais il ne me lâchait pas. Partout il passait, il était derrière moi. Donc elle m'a forcé, on arrive au lycée. Bah, elle pleurait quoi. Mm-hmm. Elle pleurait beaucoup. Elle dit bon, c'est.
Ah oui, en fait, cette histoire elle est très passionnante. Mais on aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais ce qui est très intéressant, c'est nous dire médecin maintenant et tout de suite là, qu'est-ce qui a effectivement joué dans votre vie afin que vous laissiez tomber la consommation de la drogue et puis les agressions, tout et tout. Qu'est-ce qui a sonné dans votre tête?
Bon, ça, c'est la prison. Voilà, pas il a fait la prison. Mm-hmm. Ils m'ont pris. Bon, ils m'ont une fois pris. Ils m'ont une fois pris. Oh, tu sais comment dire ça même? La police criminelle m'a pris sur la consommation de la drogue. Là, le procureur même s'est déplacé. Quand ils m'ont pris, maman est venue demander pardon au procureur. Ils m'ont laissé. Elle a payé la somme de 125 000 francs. Donc, ils m'ont lâché. Donc, après ça, ils m'ont pris, ils m'ont repris encore. Cette fois-ci, ils m'ont condamné à la prison. Il a fait presque 5 mois. Mais dans les 5 mois, ce qu'il a vécu à. Et puis dans les 5 mois aussi, il n'est pas vu. Parmi tous mes amis qui marchaient, il n'y a pas aussi qui m'a envoyé de moi. Il n'y a pas aussi bien qui avait me communiquer. À part maman, matin, ministre qui cherchait de la nourriture pour m'amener.
Et en ce moment, qu'est-ce que tu t'es dit?
Bon, je me suis dit cette fois-ci, bon, c'est bon. Et non, j'arrête tout quoi.
Et quand tu es sorti de la prison, tu as arrêté effectivement?
J'ai arrêté effectivement, j'ai repris le coup. Bah, c'est moi-même, ici allé dire à maman que non, je vais reprendre le coup. Elle-même n'en croyait pas. Bah, quand elle m'envoyait de la nourriture, quand elle me communiquait, elle me disait que non, est-ce que moi je suis sûr que je vais changer? Il dit oui maman, je vais changer.
Aujourd'hui, elle sait que tu as changé? Elle est fière de toi?
Elle est très très fière de moi.
Dites-moi, Monsieur Bamba, après avoir écouté la réaction, le témoignage de notre frère, en tant que sensibilisateur, qu'est-ce qui vous transperce?
Bien, pas même en tant que sensibilisateur, mais en tant que père. Faut que le témoignage est poignant. Et vous voyez, en tout cas, c'est tellement, je suis ému, quoi. Parce que à longueur de journée, nous côtoient les jeunes et on sait ce qu'ils vivent. Mais vraiment, je tombe d'ému, je suis très ému. Vraiment, Dieu merci que le film finit bien. Voilà, j'espère que il sera un maillon essentiel même sur la sensibilisation, puisque lui-même étant un sachant, quelqu'un qui a vécu les faits, et il sait ce que c'est que les conséquences de la consommation de la drogue. Vraiment, en tant que père même, au-delà même de CPE, en tant que père, je me suis mis à la place de cette maman, c'est poignant.
Ah oui, un enfant qui s'en sort de la sorte, M. Nguesson, qu'est-ce que votre service lui réserve?
D'abord, lorsque l'enfant est déféré, le mineur infracteur qui consomme la drogue ou bien avec qui on trouve une certaine quantité de drogue est en détention, il y a des éducateurs du SPGEJ qui se rendent régulièrement dans le quartier des mineurs afin de leur prodiguer des conseils, afin d'établir un projet individuel, c'est-à-dire pour pouvoir voir. Pour pouvoir faciliter sa réinsertion après la sortie de ce milieu-là, de la prison. Voilà. Il y a plusieurs éducateurs qui font des activités avec eux. Pour ceux qui ne vont pas à l'école, il y a des activités d'alphabétisation. On leur donne des conseils. Pour ceux qui ne veulent plus retourner sur les bancs, on prend en tâche avec des personnes qui ont des structures d'apprentissage de métier ou bien des hommes de métier déjà installés afin de les placer chez ces personnes-là pour qu'ils aient un métier, pour fuir l'oisiveté, pour fuir les mauvaises compagnies, pour les éloigner au maximum. Et il y a un suivi qui est fait après leur sortie. On les suit pour voir si leur programme habituel a changé, s'ils ont changé d'amis, s'ils vont régulièrement dans les lieux de travail qu'on leur a trouvés, des lieux d'apprentissage qu'on leur a trouvés. Et nous faisons ce suivi-là. C'est ce pourquoi nous sommes toujours en contact avec le mineur qui a rendu son témoignage aujourd'hui pour participer à son amélioration, à sa réinsertion et puis éviter la récidive. C'est le rôle du SPGEJ aussi.
En tout cas, merci bien. Dans son intervention, moi, j'ai noté qu'il y avait une relation entre consommation de la drogue et gang. Est-ce que c'est vérifié?
C'est vérifié parce que tout à l'heure, nous parlions, vous aviez demandé les statistiques, mais je pourrais m'hasarder à dire que sur 100% de mineurs infracteurs, nous avons au moins 60% qui consomment la drogue. Voilà, ils viennent généralement pour les cas d'agression en bande. Et donc, pour dire qu'il y a une relation, en tout cas chez nous, dans notre zone de Bondoukou, il y a une relation entre la drogue et appartenir à un gang. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de cas de groupe ou bien de gang qui ont été déférés, qui n'ont pas des acquaintances avec la drogue sous ses différentes formes. Ça peut être le cannabis, les comprimés et autres. Nous avons constaté que généralement, les gangs sont liés à la consommation de la drogue.
Et donc, comment est-ce que ces enfants-là intègrent-ils les différents gangs? Comment et pourquoi?
Bon, tout à l'heure, j'ai soulevé la question de la carence éducative, le manque de temps de certains parents pour l'encadrement des enfants. Et ces gangs-là deviennent comme des secondes familles pour eux, où ils obtiennent toute l'attention qui leur manque à la maison. Par exemple, un enfant qui est issu d'une famille où le père bat généralement la mère, ou une famille où la violence réside, il est pris comme punching ball par les parents, il va aller vers un groupe à l'extérieur, un groupe d'amis, un groupe de pères qui va assurer son intégration, où il aura une importance, un rôle à jouer. Il va lui confier un rôle aussi à jouer. Et c'est comme ça qu'ils intègrent ces gangs. Parce que un enfant qui est dans une famille qui fait attention à lui, qui suit son programme journalier, qui l'amène à rentrer dans des confessions, dans des groupes religieux, par exemple l'AEM, je ne sais pas si ça existe encore, à notre temps, l'association des jeunes musulmans. Voilà, lorsqu'ils sont là-bas,
également le GEC chez les catholiques.
Voilà, la GEC aussi chez les catholiques, CVAV, ce sont des groupes, des associations saines qui inculquent des valeurs saines à ses membres. Donc j'encourage tous les parents à renforcer le suivi de leurs enfants, voir ce qu'ils font en dehors de la maison, essayer de connaître avec qui ils marchent pour éviter que ces enfants tombent dans ces groupes, dans ces gangs qui les encouragent à toucher aux substances psychotropes. Voilà.
On va rapidement parler des conséquences, que ce soit dans la consommation de la drogue ou dans l'association des gangs armés. Mais avec M. Bamba, pêle-mêle, quelles sont les conséquences auxquelles les enfants sont exposés?
Bien, immédiatement même, j'ai parlé de la mort, parce que la consommation de la drogue amène directement à la mort. Voilà, donc je pense que quand la mort intervient dans un phénomène, je pense que c'est comme le diraient même les jeunes, c'est le last même des conséquences. Donc je pense qu'il y a la déscolarisation, il y a les agressions dont il vient de parler, il y a la rupture même de cet enfant, même dans le rupture sociale, il devient un danger permanent, et puis même sa vie est bousillée. Vous voyez, donc vraiment les conséquences sont énormes. Et ça devient une déception même pour les parents et même pour la communauté. Voilà, donc je pense qu'on ne doit même pas s'y approcher.
Monsieur Nguesson, parlons des conséquences. Qu'est-ce que vous avez ajouté?
Je pourrais ajouter au nombre des conséquences de la consommation de la drogue. Il y a la perte de la liberté. Il y a la détérioration de la santé de l'enfant qui consomme la drogue. Il y a l'échec scolaire. Il peut être renvoyé de l'école et finir dans la rue. Il y a aussi l'exposition à la maladie du VIH-SIDA, puisque lorsque ces enfants sont sous l'effet de la drogue, ils peuvent être utilisés par des proxénètes pour servir de commerce, pour participer à des activités de prostitution et autres. Voilà. Donc il y a le manque d'hygiène aussi. La drogue se consomme sous plusieurs formes. Il y a ceux qui utilisent aussi les seringues pour s'injecter des drogues qui peuvent entraîner le VIH, SIDA et autres maladies liée à la consommation de la drogue. Ils peuvent même tomber dans la démence, puisque ça peut faire perdre la raison. Voilà, parce que ça agit sur le comportement, ça agit sur la perception des choses de la vie.
Avant d'essayer de trouver des tentatives à ces différents phénomènes-là, à qui la faute ?
Bon, les responsabilités sont partagées. On parle souvent des parents, de la, comment on appelle, de l'éducation, mais aussi, il ne faut pas ignorer la responsabilité de l'État. Aujourd'hui, on fait l'apologie de la médiocrité. Monseigneur s'en parlait tout à l'heure des stars qui sont comme des modèles, des références pour la jeunesse. Mais ces stars-là, est-ce qu'on, tout le monde sait que ce ne sont pas des modèles sains. Voilà, quand on voit leur accoutrement, leur manière de se comporter, et ce sont à longueur de journée, on voit à la télévision, dans les médias, et c'est à eux qu'on ouvre toutes les portes. Vous voyez que vraiment, avant, les gens, l'État vraiment faisait la posologie de l'excellence. Voilà, quand quelqu'un va à l'école et qu'il est bien, il est récité un exemple et tout le monde avait des bons modèles. Mais aujourd'hui, la responsabilité de l'État même est plus que jamais à décrier. Et aussi à les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les enfants ont accès à tout. Donc vous voyez un peu que, surtout moi personnellement, j'accuse souvent l'État parce que l'État fait l'apologie de la médiocrité. Parce que nos stars ne sont pas des modèles, en tout cas la majorité ne sont pas des modèles à suivre.
Okay. Monsieur Nguisson, à qui imputer la responsabilité de cette déviance des enfants ?
Je souhaiterais prendre le contre-pied de Monsieur Bamba pour dire que l'État ne ménage pas les efforts pour pouvoir résorber ces phénomènes de consommation de la drogue dans le milieu des mineurs. Puisque l'État est le créateur de la structure dont je suis le responsable ici, du SPGEJ de Bondoukou, le service de la protection judiciaire de l'enfance. C'est en vue de participer à la sensibilisation d'abord, parce que le SPGEJ ne laisse pas d'abord les cas de délinquance se produire. Il va pour prévenir la délinquance juvénile en sensibilisant sur les abus sexuels, en sensibilisant sur la consommation de la drogue et autres fléaux de la société. C'est une manière pour l'État de prévenir la délinquance juvénile. Et pour dire aux jeunes que leur place n'est pas en prison, c'est dans la société, à l'école et dans le tissu socio-professionnel.
Nous allons revenir à notre cher ami. Si vous aviez en ce moment un conseil, un message à donner à vos camarades, à vos frères, quel serait ce message-là ?
Je veux dire à mes amis, à mes frères, d'écouter la bouche de leurs parents, d'écouter beaucoup les conseils de leurs parents. Parce que c'est le non-respect des parents qui nous amène à ce conflit-là. Donc je tiens à dire beaucoup de respecter les parents, d'écouter leurs conseils et aussi d'aller à l'école car nous sommes l'avenir du demain.
Qu'est-ce que vous réagissez ? Qu'est-ce que vous dites après ce conseil de notre jeune frère ?
Certainement, ce n'est pas. Je voudrais recadrer mon idée. Bon, quand j'ai dit que c'est l'État a sa responsabilité. Donc, c'était pas. L'État fait beaucoup, mais quand même, beaucoup reste à faire encore. Donc, alors, pour rejoindre le jeune frère, je pense que son message est poignant parce que ce pays leur appartient. Parce que c'est eux les décideurs de demain. Voilà, c'est eux l'avenir. En tout cas, quand les parents s'investissent, les parents se carcassent, ils font tout pour les scolariser. Déjà, quand on parle des droits d'enfant, c'est eux qui sont toujours indexés. Alors donc, ce parent-là, il va se carcasser, essayer de s'occuper de toi, de te nourrir, de te mettre à l'école, de te vêtir. Et au-delà de ça, tu vas venir le payer avec la drogue. Vous voyez vraiment, quand le jeune frère donnait son témoignage ici, j'avais la chair de poule, puisque voyant, je me suis imaginé à la place de sa maman qui faisait mes épiers pour le nourrir, même en prison. Vous voyez, donc vraiment que les jeunes frères, les enfants aient pitié de leurs parents. Et puis aussi à l'État de sensibiliser plus en amont que de créer des structures en aval pour s'occuper de ces choses-là. Si on base beaucoup sur la sensibilisation et aussi le suivi même des familles, je pense que ça peut au moins diminuer la consommation de la drogue dans le milieu des mineurs.
Monsieur Nguesson, dites-moi, est-ce que l'avenir est-il promoteur pour les enfants et la jeunesse ivoirienne ? Est-ce qu'on peut faire confiance en cette jeunesse-là qui sera responsable demain?
Je pense que l'espoir est permis puisque nous ne sommes pas, nous représentons pour notre part le SPJ, le service de la protection judiciaire de l'enfance, mais il y a aussi plusieurs ONG, dont l'ONG Notre Grenier, qui participent à la sensibilisation et pour résorber tous ces phénomènes de consommation de drogue. Je cite les différents sujets abordés, les grossesses précoces et autres. Donc, nous pouvons avoir de l'espoir pour l'avenir parce que au bout de nos efforts, ce sera moins de délinquance à Bondoukou, dans notre région, plus particulièrement dans la région du Gontougou. Je vous remercie.
Merci à tous et merci à toutes. Nous étions avec Monsieur Nguesson Sako Hugues Hervé, conseiller d'éducation surveillée, responsable du service de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Également, nous étions avec Monsieur Bamba Abdourahmane du comité protection enfants du quartier Zanzan. Merci d'avoir suivi cette émission. On vous donne un rendez-vous prochainement. Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'ONG Notre Grenier. À très bientôt.
Ce programme vous a été proposé par Radio Synergie URPCI, une plateforme d'échange de programmes.
Une initiative de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire au profit de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire.
Appui financier, l'ambassade des États-Unis
et le Fonds de soutien et de développement de la presse.
www.radiosynergie.ci